Voici l'abécédaire de la der des der. Comme taxe carbone et marché du carbone. Tandis que les gouvernements successifs de gauche comme de droite ressortent régulièrement de leur chapeau la taxe carbone comme mesure phare pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, soumettons-nous à un petit exercice critique. Autopsie d'une fausse bonne idée et d'une vraie escroquerie. Bon, d'abord, il y a deux taxes carbone. Celle qui s'applique aux entreprises et aux sites polluants et qui est plutôt un marché ou une bourse au carbone, et, à l'échelle individuelle, la taxe carbone ajoutée au prix de vente de produits ou de services en fonction de la quantité de gaz à effet de serre qu'ils émettent lors de leurs utilisations. A priori, on n'est pas contre, vu que les énergies fossiles se font de plus en plus rares, et si, utopiste qu'on est, on imagine que les recettes de cette taxe iraient au développement des énergies renouvelables, et qu'on aimerait bien que les entreprises et les bagnoles arrêtent de rejeter des gaz mortifères. Bah oui, mais non. Pour comprendre comment un système qui semble louable est en réalité un nouveau monstre du capitalisme sauvage, il faut d'abord comprendre ce qu'est le capitalisme vert et son présupposé, l'estimation de la valeur des services rendus par la nature. Voici un extrait du livre « Ne soyons pas des écologistes benêts pour un protectionnisme écologique et social » de Aurélien Bernier, Michel Marchand et le MPEP, qui est paru aux éditions Mille et Nuits. C'est un bon petit bouquin qui m'a montré la réalité de la taxe carbone et dont je citerai certains passages dans cette émission. Dans cet ouvrage, donc, Sylvie Faucheux, professeure d'économie à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, explique que le monde fonctionne selon trois niveaux différents, le naturel, l'économique et l'humain. Pour le courant de pensée des physiocrates au XVIIIe siècle, la sphère économique était incluse dans celle de la société des hommes, elle-même incluse dans celle de la nature. Aujourd'hui, avec la théorie néoclassique, cette hiérarchie est inversée. La sphère économique est devenue de loin la plus importante, englobant l'espace sociétal, la nature étant ravalée au rang de réservoir. Cette situation ne résulte pas du hasard. C'est la dynamique du capitalisme qui a placé l'économie, ou plus exactement sa conception de l'économie, au sommet de la hiérarchie des normes sociales. Or, dans la logique capitaliste, ce qui n'a pas de valeur marchande ne compte pas. En 1997, une étude chercha donc à estimer la valeur financière des écosystèmes et des services qu'ils rendent chaque année à la société. Le chiffre est tombé, 33 milliards de dollars. C'est donc la valeur estimée par cette étude pour les biens et services fournis par les écosystèmes, indispensables au bien-être et à la survie de notre espèce. 5 ans plus tard, une autre étude évaluait le prix de la biosphère à 180 millions de dollars. La différence de résultats montre à quel point, au-delà de l'absurde de tels calculs, ces évaluations à l'emporte-pièce sont incertaines et tiennent plus lieu du hasard de calcul que de la vérité scientifique. Surtout, ces chiffres ne valent quelque chose que s'ils sont mesurés à l'orée d'autres chiffres. Ainsi, les conséquences du réchauffement climatique ont été évaluées à 7 000 milliards de dollars. Ok, toujours par souci de comparaison, les États-Unis ont dégagé une enveloppe de 2 000 milliards de dollars pour le sauvetage des banques et de l'économie du pays après la crise des subprimes en 2008. Alors qu'en 2009, les contributions des États au Fonds pour l'environnement géré par les Nations Unies atteignaient péniblement les 85,5 millions de dollars. Des chiffres sans commune mesure qui nous montrent bien quels sont les ordres de priorité de ces gens-là. Or, si nous suivons la logique strictement économique des gouvernements, la priorité absolue devrait être accordée à la préservation de la biodiversité, puisqu'elle a prouvé sa grande valeur marchande. Ces évaluations économiques se justifient pour une raison simple. Elles aident à déterminer des niveaux de taxes environnementales et à calculer des indemnités en cas de dommages, ce qui peut sembler valable, même si cela ne doit pas dispenser des sanctions pénales lors d'atteintes à l'environnement et encore moins de mener des politiques de prévention en amont. comme le souligne Frédéric Denez, la nature ne peut être sérieusement considérée comme remplaçable par la technologie, la science ou l'agriculture. Ses travaux sur la valeur des écosystèmes devraient donc, en théorie, ébranler la logique capitaliste. Pourtant, en mettant un prix à la nature, les tenants du système ont une toute autre idée en tête. Il s'agit pour eux de créer un marché de la protection de l'environnement, de chercher à privatiser les écosystèmes, de coter en bourse les droits à polluer, bref, de gagner encore et toujours plus de fric. Au lieu de préserver, il faut donc privatiser, exploiter, gérer et faire du profit. Et là aussi, le débat est confisqué d'avance. La catastrophe environnementale annoncée donne l'occasion de passer à une nouvelle phase. Après la négation des risques, après le verdissement artificiel des discours, voici arriver la grande offensive du capitalisme vert. Le capitalisme vert ou le nouvel Eldorado du capitalisme. Jamais à court d'arguments, malgré son puissant souffle dévastateur, le capitalisme se réincarne dans chaque nouvelle crise qu'il produit, et la crise environnementale de ces dernières décennies ne fait pas exception à la règle. Passé l'époque où les gouvernants et les firmes industrielles pratiquaient la politique de l'autruche, comme dans les années 60, alors que Rachel Carson, auteur du livre Un printemps silencieux, révélait les effets dévastateurs des pesticides et que les mouvements écologistes émergents en Amérique et en Europe cherchèrent à informer l'opinion publique et subir le dénigrement des pouvoirs publics. Aujourd'hui, face à l'évidence de la crise, une nouvelle stratégie a été mise en œuvre. Comme avant, les lanceurs d'alerte sont toujours descendus en flèche à grand renfort de communication dans les médias et de lobbying. La preuve en est avec les questions actuelles liées aux OGM ou au réchauffement climatique. Mais depuis la fin des années 80, on voit autre chose se profiler. Depuis qu'il n'est plus décemment possible de nier une crise que tout un chacun peut percevoir, le temps est maintenant venu de la récupération. Ou une grande opération de greenwashing, qui consiste à se donner des airs écolos et responsables sans rien remettre en cause des fondements du capitalisme néolibéral, à savoir l'exploitation des ressources naturelles et humaines jusqu'à épuisement. Les communicants furent chargés de transformer l'image des industries polluantes pour les faire passer pour des pionnières de l'écologie. Pensez à toutes ces pubs pour des 4x4 reluisants roulant à toute berzingue dans la campagne sauvage. Pour peu que ces entreprises consacrent effectivement quelques millièmes de leurs bénéfices à la réduction de certains dégâts. Et surtout, pour peu qu'elles engagent un max de pognon dans le lobbying et la publicité. C'est ce qu'on nomma le Responsible Care, ou engagement de progrès, concept apparenté à celui du développement durable. Une nouvelle étape a été franchie dans les années 2000. Il s'agit de la prise en main de l'écologie. Cette étape intervient alors que l'environnement est déjà tellement dégradé qu'il devient rentable de le réparer et de le protéger. Dès lors, le capitalisme fait ce qu'il sait faire, privatiser et marchander. Progressivement, nous sommes rentrés dans cette nouvelle phase du capitalisme vert, bien plus inquiétante encore que les précédentes, car comment croire que ceux qui nous empoisonnent et détruisent l'environnement ont à la fois les clés du virus et de l'antidote? Ne vaudrait-il mieux pas empêcher le virus de se propager au lieu de négocier l'antidote après coup? La logique n'est ici bien sûr ni morale, ni éthique, mais bien celle du plus offrant. La privatisation d'un service public comme celui de la gestion des déchets ou celle des régies de l'eau furent les premiers signes avant-coureurs de ce glissement. Un groupe comme Suez Environnement réalisait en 2008 un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards d'euros, dont la moitié concernait son activité de gestion des déchets. Malgré la crise, ses résultats nets étaient en hausse de 8,4% par rapport à 2007. Et Veolia Propreté n'est pas en reste avec un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros et 66 millions de tonnes de déchets traités. Ces multinationales se sont fait les chantres du capitalisme vert, avec le soutien des pouvoirs publics. Car en fait, le principe est simple, le capitalisme peut faire de l'écologie si la préservation de la planète est plus rentable que sa destruction. Et alors, le traitement des pollutions devient un facteur de croissance des pays. Pour faire passer la pilule, on désigna le citoyen lambda comme le pollueur number one. Et on commença à le faire culpabiliser sur son utilisation déraisonnée de l'eau, de l'électricité et de son attitude irresponsable quant à la protection de l'environnement. Et à toujours jeter ses papiers gras par terre et à prendre sa bagnole pour un oui ou pour aller bosser. Il est con aussi, le citoyen lambda. Con comme un enfant à corriger, con comme un coupable idéal. Bon, alors oui, la leçon de morale à deux balles, elle a bien été intégrée, hein. Qui n'a jamais eu droit à un sermon par un écologiste qui, lui, bah oui, protège l'environnement et pas toi et ses mâles, et qui se drape dans sa bonne conscience et sa morale infantilisante, mais sans jamais vraiment chercher les vraies causes, les vrais pollueurs et donc les vraies solutions. Bon, c'est que du blabla tout ça. Mais ça marche, et ça marchera encore. Et pendant ce temps-là, le service public fut offert au privé, à des groupes cotés en bourse qui rémunèrent grassement leurs actionnaires. Et qui s'en est indigné? Certainement pas certains écolos trop contents de pouvoir faire la morale à leurs contemporains. Parlons maintenant de la bourse carbone. Depuis les années 80, de nombreuses études ont montré que les causes du réchauffement climatique sont liées aux activités humaines. Et actuellement, c'est sur la réduction des consommations d'énergie fossile que se concentrent les efforts pour espérer remédier à la crise climatique. La taxe carbone fait partie de ces tentatives. Mais comme vous allez le voir, cela ne va pas sans risque. Et si c'est la seule mesure dont les gouvernements s'emparent, ce n'est pas un hasard. Car plus que la réduction de quoi que ce soit, c'est surtout un énorme marché qui se crée autour d'un formidable outil de spéculation financière. Ou comment éviter de remettre en cause le libre-échange tout en se donnant une image plus green ? À cette question, la réponse fut d'imaginer à la fin des années 90 un système de droit à polluer, fondé sur une théorie élaborée en 1960 par Ronald Coase. D'après lui, la dégradation de l'environnement tient à son absence de valeur marchande. Il faudrait donc donner un prix à la pollution. Pour cela, il préconisait d'attribuer des droits de propriété et de créer un marché qui permette l'échange de ces droits. Le prix à payer pour la protection de l'environnement se résume alors au produit de la loi de l'offre et de la demande. En 1997, lors du sommet de Kyoto sur le climat, cette idée va s'imposer et 37 pays, dits les pays de l'annexe 1, composés des pays de l'OCDE et des pays de l'Europe de l'Est, se sont alors engagés pour la période 2008-2012 à réduire de 5,2% leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990, en mettant notamment en place le système du marché du carbone. Ou comment se faire du pognon en prétendant sauver la planète ? Le premier marché du carbone a vu le jour en 2003 aux États-Unis, pays qui n'a pourtant pas ratifié Kyoto. Afin d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, et plutôt que d'instaurer une taxe sur les émissions, à laquelle l'immense majorité des pays développés est farouchement opposée, on va mettre en place un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre et appliquer une logique de marché aux enjeux climatiques. C'est le système des marchés carbone. Dans l'idée, c'est un mécanisme qui permet d'échanger des droits à polluer. Des quotas d'émissions de gaz à effet de serre sont fixés pour chaque pays, puis pour chaque entreprise, et ceux qui possèdent des excédents ont la possibilité de les revendre aux États qui ont dépassé ces limites de pollution. Et les autres, qui ont dépassé leur plafond d'émissions et doivent acheter des quotas d'émissions auprès d'entreprises plus méritantes, sont pénalisés. Dans les faits, le marché du carbone s'appuie sur deux dispositifs. Il y a d'abord un système d'objectifs et de marché, dans lequel les États allouent des quotas à leurs sites ou entreprises polluants. Ces quotas sont échangeables sur un marché. Les exploitants de ces sites polluants ont l'obligation de détenir à chaque fin d'année autant de titres que de tonnes de gaz à effet de serre émises. Ainsi, les firmes les plus polluantes achètent des droits à polluer à celles qui parviennent à rester en dessous de leurs propres quotas. Deuxièmement, si ces entreprises engagent des projets pour réduire ou éviter les émissions de gaz, elles se voient récompensées par l'attribution de crédits carbone ou de droits à émissions. Les projets éligibles à l'obtention de tels crédits peuvent être réalisés dans les pays en développement, ce qui permet d'avoir des coûts de main-d'œuvre plus bas. Et ce qui a son importance, comme vous allez le voir. Les entreprises sont ensuite libres d'échanger ces crédits entre elles sur une bourse du carbone. Le poids des crédits carbone. Au sein de l'Union européenne, le marché du carbone, ou système communautaire d'échange de quotas d'émissions, fut inauguré en 2005. Cette bourse du carbone est un instrument fondé sur le marché, ou encore instrument de Kyoto, visant à réduire l'émission globale de CO2 et à atteindre les objectifs fixés par l'Union européenne au sein du protocole de Kyoto. Lors de son lancement en 2005, le système communautaire d'échange de quotas d'émissions constituait le plus grand système d'échange de crédit carbone dans le monde. Les gouvernements ont alors distribué des droits à polluer à tout va, à tel point que la première année, l'offre de quotas dépassait la demande, à savoir les émissions réelles des entreprises concernées. C'est le premier crack qui voit passer le prix de la tonne de carbone de 30 euros à moins de 1 euro en l'espace de quelques mois. La valeur va ensuite s'équilibrer autour des 20 euros. Mais en septembre 2008, c'est la crise et de nombreuses entreprises vendent leurs quotas pour récupérer du cash flow. Le cours va alors chuter à 8 euros en mars 2009. En dépit de ce double fiasco, la finance internationale se montre satisfaite de ce nouvel Eldorado spéculatif, qui couvrait en 2009 plus de 10 000 installations des secteurs énergétiques et industriels et plus de 12 000 aujourd'hui. En 2010, la Banque mondiale estimait le marché global des crédits carbone à près de 100 milliards d'euros. Le marché européen de permis est quant à lui estimé à plus de 83 milliards de dollars, ce qui en fait de loin le plus important. Il existe cependant de nombreux marchés volontaires peu réglementés où les entreprises achètent des crédits carbone simplement pour soigner leur image, pour spéculer ou en espérant tout simplement les revendre plus cher. Tiens, je vais aller brûler du gaz en Chine. Les marchés carbone s'appuient largement sur des mécanismes de compensation des émissions des pays riches dans les pays pauvres. L'un des plus célèbres est le mécanisme de développement propre ou MDP. Il s'agit d'un moyen pour les États ou les firmes de l'annexe 1 d'obtenir des crédits d'émissions supplémentaires, qu'ils pourront donc revendre sur le marché ou déduire de leurs obligations internationales de réduction, en finançant des projets de réduction d'émissions dans les pays en voie de développement. En d'autres termes, ils gagnent le droit de polluer ici s'ils s'engagent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre ailleurs. Le développeur du projet doit néanmoins démontrer que son projet n'aurait pas pu se réaliser sans les revenus de la vente liés au crédit carbone du MDP et qu'il permet la réduction d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires par rapport à ce qui se serait passé sans la mise en œuvre de ce dernier. Cependant, en pratique, la plupart des projets auraient eu lieu sans le soutien financier du MDP et permettent juste aux entreprises des pays industrialisés de pouvoir continuer à polluer pépère ici. Et puis surtout, les projets coûtent beaucoup moins cher à mettre en œuvre là-bas qu'ici. Du coup, persuadés que la demande en quota va augmenter, une grande variété d'acteurs comprenant des banques et des fonds d'investissement s'activent sur les marchés du carbone. Ils investissent sur ce marché et parient sur la hausse des prix. Des fonds carbone sont montés pour financer des projets dans les pays à faible coût de main-d'œuvre, dans le but de générer du droit à polluer. Ces actifs seront ensuite revendus sur les marchés à terme à un prix bien supérieur au coût d'investissement nécessaire pour économiser une tonne de gaz à effet de serre, qui est en moyenne de 80 euros en France contre 3 euros en Chine. La perspective de profit facile conduit à une déferlante de projets censés réduire les émissions, principalement en Chine, en Inde, au Brésil. Les critères d'éligibilité définis par l'ONU sont rarement respectés, mais l'institution ferme les yeux et attribue malgré tout les crédits carbone. Ces actifs sont parfois vendus avant même que les projets ne voient le jour. Le gros des transactions de quotas et de crédits se fait par le biais de produits dérivés. Les crédits issus des projets les plus risqués sont dilués dans des produits complexes, sécurisés par des crédits plus fiables ou par des volumes de quotas que les États ont délivrés aux sites polluants. On titrise aussi le carbone. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais imaginons maintenant qu'un de ces projets n'aboutisse pas, ou, fait plus rare, qu'il ne soit pas validé par l'ONU. Les crédits qu'il aurait dû produire sont déjà vendus et ont été ventilés dans ces fumeux produits dérivés. Nous nous trouvons alors dans une situation tout à fait comparable à celle des subprimes, où la dissémination incontrôlable et incontrôlée de créances pourries a mené à la crise qu'on connaît. Si le marché de la taxe carbone n'est pas encore assez important pour provoquer de tels dégâts sur les économies des pays, les mécanismes à l'œuvre sont les mêmes, et ce marché est amené à se développer. Et c'est un nouveau géant au pied d'argile qui a été créé, et gare à l'éclatement de la bulle. Le problème avec les grands barrages. Bien que les grands barrages ne soient pas des projets d'énergie renouvelable et ne répondent pas aux besoins énergétiques des populations, ils reçoivent beaucoup de crédits carbone via le MDP, alors même que l'immense majorité d'entre eux auraient été construits sans l'apport du MDP. Ainsi, selon le Clean Development Mechanism Watch, CDM Watching, qui observe à la loupe les projets MDP, près d'un tiers des projets enregistrés en 2011 étaient des projets hydroélectriques, soit plus de 1000 projets, sans compter les 700 autres projets en cours d'inscription. Clean Development Mechanism Watch estime qu'à l'horizon 2020, les grands barrages représenteront près de 20% des crédits carbone accordés au titre du mécanisme de développement propre. À titre de comparaison, les projets d'énergie solaire représentent à peine 0,9% des projets enregistrés. La seule condition posée par le comité de direction du MDP par rapport aux projets hydroélectriques concerne un ratio entre la taille des réservoirs et leur capacité de production, tant et si bien que même le gigantesque barrage des Trois Gorges en Chine serait éligible. Au 1er février 2012, plus de 72 millions de crédits carbone ont déjà été délivrés au secteur hydraulique. Cette captation de fonds importants représente autant d'argent qui ne sera pas utilisé pour les énergies réellement renouvelables, tout en créant artificiellement des crédits d'émissions carbone. D'ailleurs, le groupe indépendant d'évaluation de la Banque mondiale recommandait dans un rapport de 2010 que cette dernière cesse d'utiliser la finance carbone pour les projets hydroélectriques. Projets qui ont des impacts environnementaux et sociaux désastreux, comme on le sait. À propos des barrages, vous pouvez vous reporter à l'article paru sur le site des Amis de la Terre « Comment les marchés carbone favorisent les grands barrages » paru en mars 2012. Voici un autre exemple, le problème avec les gaz HFC-23. Mais qu'est-ce que le HFC-23 ? Eh bien, c'est un sous-produit de la fabrication d'un réfrigérant, le HCFC-22, qui a un effet de serre dévastateur et qui était rejeté dans l'atmosphère par les usines des pays du Sud. En 1987, le protocole de Montréal a banni l'emploi des CFC comme gaz réfrigérant pour les frigos. Les pays occidentaux ont cherché à développer des produits moins nocifs pour la couche d'ozone. Voilà, peut-être que ça vous revient là, l'histoire du gaz et des frigos, tout ça. Les pays en voie de développement ont obtenu le droit d'utiliser pendant encore 20 ans des substituts un peu plus nocifs, mais moins chers à produire, les HCFC-22. Or, les HCFC-22 représentent un gros problème. Le processus de fabrication entraîne le dégagement d'un sous-produit, le HFC-23, extrêmement nocif pour l'effet de serre puisque son potentiel de réchauffement global est de 11 700. À titre de comparaison, le méthane a un potentiel de 21. Il est donc impératif de brûler ce sous-produit à haute température pour s'en débarrasser, autrement notre atmosphère ne le supporterait pas. Or, il s'est avéré que brûler ce sous-produit est extrêmement rémunérateur, vu son potentiel de réchauffement global élevé. Le four qu'il faut installer est bon marché, donc les brûler peut rapporter de très nombreux crédits carbone. Tellement rémunérateur même que de nombreuses usines se sont construites en Chine, ou ont été agrandies exprès juste pour brûler le sous-produit et encaisser l'argent des crédits carbone. Les projets de destruction volontaire du HFC-23 sont reconnus par le mécanisme du développement propre. Puisque ceux-ci ne coûtent pas cher et permettent de réduire considérablement les émissions, ces projets débouchent sur des profits formidables pour les industriels. Ces profits sont tellement importants qu'ils constituent une réelle incitation pour les industriels à poursuivre la production du réfrigérant, même si la demande baisse. Cette incitation est donc en contradiction avec la révision du protocole de Montréal qui cherche à accélérer la fin de l'utilisation du dit réfrigérant. Un scandale a éclaté en 2006. Lorsque le New York Times a révélé au grand jour la supercherie, qui était jusqu'alors restée dans un cercle restreint de spécialistes. Depuis, le gouvernement chinois a décidé de taxer lourdement ses crédits carbone. Mais le problème n'est toujours pas résolu. Et il existe une banque dans la cité à Londres, The Climate Change Capital ou CCC, qui se fait encore de juteux bénéfices avec ce commerce lucratif. Si on regarde un peu plus loin, puisque toutes les activités humaines consommant de l'énergie fossile émettent des gaz à effet de serre, le marché du carbone devrait tout simplement devenir le plus gros marché de la planète, et donc le plus grand marché des produits dérivés, avec les complications que l'on connaît. Or, la régulation de cette gigantesque machine ne semble pas préoccuper grand monde. Petit tour du monde des taxes carbone. Aujourd'hui, en Europe, ce sont près de 12 000 installations industrielles les plus polluantes, responsables de 50% des émissions de CO2 du continent, qui sont soumises au système communautaire d'échange de quotas d'émissions. En 2013, il est prévu que ces quotas deviennent payants, ce qui rapproche son fonctionnement d'une taxe carbone. Mais bon, pour le moment, on n'a rien vu venir. Comme en Australie, où la loi impose aux grandes entreprises les plus polluantes une taxe de 18,5 euros par tonne, l'idée étant de les encourager à revoir leurs moyens de production. En Colombie-Britannique, au Canada, la taxe carbone touche tout le monde, mais elle est progressive et le gouvernement de la province s'est engagé à réduire les impôts d'un montant identique au montant de la taxe. La province a ainsi créé le Low Income Climate Action Tax Credit, un crédit d'impôt de 100 dollars par adulte et de 30 dollars par enfant, dans le but de neutraliser les effets négatifs de sa taxe carbone sur les plus démunis. La Colombie-Britannique espère réduire de 3 millions de tonnes ses émissions de gaz à effet de serre par an, soit selon elle l'équivalent de 800 000 voitures de moins sur les routes. La Suisse a mis en place une taxe carbone en 2008 sur les combustibles fossiles utilisés à des fins énergétiques comme l'huile de chauffage, le gaz naturel ou le charbon. Les carburants tels que l'essence et le diesel ne sont pas concernés par la taxe. Des exemptions sont prévues pour les entreprises s'engageant à réduire leurs émissions. Elles se voient alors accorder des quotas d'émissions. La Nouvelle-Zélande a tenté en 2005 de mettre en place un système de taxe carbone, mais a renoncé face à l'opposition des partis minoritaires du gouvernement. À la place, elle a lancé en 2008 un système d'échange de quotas d'émissions de carbone lié à la bourse du carbone. Mais qu'en est-il de la taxe carbone en France ? Celle qui occupe les débats médiatiques et qui était l'une des mesures phares de l'écologie selon Sarkozy. La taxe carbone est une taxe ajoutée au prix de vente des produits ou de services en fonction de la quantité de gaz à effet de serre, comme le gaz carbonique, CO2, dioxyde de carbone, qu'ils émettent à l'utilisation. Le but étant de limiter ces émissions de gaz en appliquant le principe de pollueur-payeur. Elle touche potentiellement les carburants fossiles, essence, gazole, gaz, charbon, et toutes les activités qui en utilisent. La taxation se calcule ici aussi sur la base d'un prix à la tonne de gaz carbonique émise. En France, il n'existe pas de taxe carbone. En 2009, lors des accords dits de Grenelle de l'environnement, le gouvernement avait prévu de la mettre en œuvre en janvier 2010, avec un montant initial de 17 euros la tonne de CO2. Les fonds prélevés devaient ensuite être redistribués sous forme de crédit d'impôt. Les entreprises les plus polluantes, donc celles soumises au système communautaire d'échange de quotas d'émissions, étaient exonérées. Ces exonérations ont été jugées non conformes à la Constitution et le projet fut enterré par la suite. Cependant, des certificats d'économie d'énergie ou CE ont quand même été mis en place et jouent un rôle de taxe carbone, histoire de pouvoir quand même jouer à la grande cagnotte du marché carbone. Petites histoires autour d'une vaste escroquerie. Ces dernières années, les transactions sur les droits d'émission de CO2 dans l'Union européenne ont fait l'objet d'importantes fraudes à la TVA. La bourse carbone européenne a été entachée de tellement de fraudes que la place de marché française Bluenext a dû être fermée fin 2012. Bluenext avait en effet été fragilité par la découverte de plusieurs de ces fraudes sur le marché carbone. Décidée en décembre 2012, la fermeture du marché Bluenext où s'échangeaient les quotas de carbone a tenu lieu d'épilogue à la plus vaste affaire de fraude à la TVA qu'aient connue la France et l'Europe. Selon les experts, de 2008 à 2009, le Trésor public y aurait perdu entre 1,6 et 2 milliards d'euros, la Grande-Bretagne presque autant et l'Allemagne près de 1 milliard. Les modérés chiffrent l'addition finale entre 5 et 10 milliards, les pessimistes l'estiment deux fois plus lourde. Bruxelles, qui a lancé l'activité d'échange des quotas de carbone en 2005, a oublié de doter l'ensemble d'un système de régulation. Ainsi, n'importe quelle petite entreprise, même non soumise aux quotas de carbone, a accès à la bourse, moyennant de très faibles formalités. La recette a vite été mise au point par les fraudeurs. Une boîte créée pour l'occasion achète à l'étranger, discrétion oblige, des quotas de CO2. Hors TVA, puisqu'elle n'est pas l'utilisateur final. Avant de les revendre sur Bluenext en facturant la TVA, qu'elle ne reversera jamais, alors qu'elle en a l'obligation. Et lorsque l'État réclame à la dite boîte la TVA empochée sur ses transactions, celle-ci a tout simplement disparu avec ses dirigeants. Certains ont poussé la malice en donnant des noms suggestifs à leur éphémère société. Shadow Company, déjà vu, je disparais. Débordée par le nombre d'affaires, d'acteurs et de sociétés réelles ou fictives créées aux quatre coins du globe, la justice s'essouffle, n'arrêtant pour l'essentiel que des intermédiaires et des hommes de paille. Mais l'État français lui-même déploie une énergie qui ne risque pas de réchauffer la planète. Actionnaire à 40% de Bluenext, le reste étant détenu par la bourse Euronext, et chargé de gérer le registre des négociants de quotas, la Caisse des dépôts est accusée par plusieurs juges de manque de vigilance. Elle a pourtant alerté à plusieurs reprises TRACFIN, cellule de lutte contre le blanchiment. Celle-ci, après une vingtaine d'alertes, a attendu avril 2009 avant de saisir le parquet de Paris. Trois mois plus tôt, Et au plus fort de l'escroquerie, Augustin de Romanet, secrétaire général de la Caisse, écrivait à Éric Worf, ministre du Budget, pour lui suggérer de supprimer la TVA sur les transactions de carbone en raison d'un risque de fraude très élevé sur le marché. Après 5 mois de réflexion et quelques centaines de millions supplémentaires détournés, le ministre s'exécutera, mettant fin au trafic français. Cet article est extrait du Canard enchaîné, paru le 29 janvier 2013. Dans le cadre de cette affaire, la bourse française Bluenex avait dû s'acquitter d'un redressement fiscal de 32 millions d'euros pour ne pas avoir alerté de manière assez précise les renseignements de Bercy. Cette arnaque s'ajoute à une longue liste de manipulations du marché carbone. Les dernières en date, l'affaire HFC-23 et le piratage informatique sans précédent des registres de quotas de CO2, avaient conduit la Commission européenne à geler en janvier 2011 toutes les transactions concernant les opérations au comptant dans les 30 pays soumis au système d'échange de quotas de CO2. Finalement, le capitalisme vert n'attend que l'aggravation des crises pour prospérer, quitte à les accélérer.
Tu sais que les girafes, ben, ça existe pas.
Ah bon ?
Eh ouais, c'est un coup monté.
Radio Girafe, des ateliers d'initiation à la radio et aux médias 2.0 proposés par l'association d'éducation populaire Gudule et Galipette. Retrouvez-nous sur internet www.gudule-galipette.fr.